On va commencer cette session. Je profite de l'opportunité d'être présidente de séance pour vraiment remercier les organisatrices parce que c'est une conférence extrêmement inspirante et riche. Merci beaucoup. Et la session de cet après-midi s'intitule « Réseaux sociaux, pensée féministe noire et production de savoir hétérogène ». Fatousso parlait en début de conférence de la question de avec qui on est en conversation quand on se dit ou se réclame féministe noire. Je pense que réfléchir sur cette question dans les réseaux sociaux et sur les plateformes numériques, ça complexifie encore la question que posait Fatousso. Et nous avons une première intervention par Camille Rio et Dandara Sosa, qui sont en études politiques à l'EHESS, et leur contribution s'intitule « La traduction de concepts féministes noirs américains dans les comptes Instagram francophones ».
Merci beaucoup pour la présentation. Je voudrais aussi remercier à l'organisation de cette conférence pour la possibilité qu'on discute des sujets du féminisme noir en France. Voilà, donc ça, c'est le sujet que aujourd'hui moi et Camille on va présenter. Et donc je commence par le texte. Donc, créé en août 2018 dans le contexte post-MeToo, le compte Instagram Téton Marron propose un espace des revendications militants afroféministes internationalistes. Une telle perspective de la lutte féministe s'exprime non seulement à travers l'usage des hashtags tels que Afrofeminism, Afro-European, Black Women Safe Space ou Black Girl Magic dans de diverses publications faites dans les comptes. Elle s'exprime aussi à travers le partage du contenu sous la forme de textes ou des médias, sous des épisodes qui se déroulent dans les lieux les plus variés du monde, mais qui concernent l'expérience vécue des personnes noires, quelles que soient les limites géographiques dans lesquelles elles s'y trouvent. Centrée sur la pédagogie, la transmission des témoignages et les conseils issus des mouvements féministes et antiracistes, le compte Téton Marron intègre l'univers des comptes qui viennent modifier une dynamique initialement caractéristique de la plateforme Instagram, celle du culte du privé et du selfie, dans laquelle nous aurions du mal à discerner l'aspect politique. Dans les cadres de l'intervention que nous proposons aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'appropriation de certaines conceptions de prime abord formulées dans le contexte féministe noir nord-américain par un activisme féministe francophone qui s'organise sur Internet. Pour cela, nous nous baserons sur l'exemple de la Conseil Téton Marron pour analyser la réappropriation de ces conceptions, de cette conception. Au-delà d'une perspective de traduction ou d'importation des concepts venus d'ailleurs, nous argumenterons qu'une telle appropriation vérifiable sur ces comptes incrémente un vocabulaire favorable au combat féministe antiraciste dans une perspective intersectionnelle, telle que Crenshaw nous a formulée, qui historiquement se déroule dans le contexte de la France coloniale et postcoloniale. Nous dédions une première partie de l'intervention à une cartographie de l'activisme en ligne afin de situer l'inscription de Téton Marron dans ces phénomènes. Dans une deuxième partie, nous analyserons la création d'un safe space virtuel centré sur une politique d'amour noir à partir de deux axes. D'une part, l'emploi des hashtags issus du monde anglophone ainsi que des perspectives que celles-ci avancent pour décrire des registres afro-diasporiques pluriels et transnationaux. D'autre part, la production des images libératrices des tétons en couleur marron à partir de l'énoncé du conte. Finalement, nous tisserons les liens entre Black Feminism et Afroféminisme afin de montrer comment Téton Marron contribue à partir de différents matériaux à la construction d'un féminisme francophone.
Faire une histoire de l'émergence du militantisme sur Instagram est une entreprise complexe. En effet, aucune étude n'existe sur le sujet. Il est donc impossible d'avoir un regard surplombant sur l'apparition historique et la naissance de ce mouvement. En conséquence, nous choisissons pour cette intervention de faire une histoire subjective de ce phénomène afin d'en donner quelques jalons, si lacunaire soit-il. De mon point de vue, la découverte de l'activisme sur Instagram part de Dora Mouto et de son compte Tajoui, créé le 15 août 2018. Celui-ci bénéficie d'une médiatisation très importante qui me révèle l'usage militant d'Instagram. Avec le jeu des algorithmes et des suggestions, je découvre d'autres comptes militants comme Je m'emballe Clito, Tubande, Agressively Trans, Personnes racisées versus Grindr, pour n'en citer que quelques-uns, et Téton Marron. Instagram devient alors, pour celles qui le souhaitent et qui sont au courant, une plateforme de pédagogisation et de militantisme pour les causes féministes, transféministes, afroféministes, antiracistes, queer. L'hypothèse que nous proposons est que ce compte s'inscrit dans la même démarche que les blogs, sites internet et comptes Twitter afroféministes qui émergent dans les années 2000 et 2010. On peut citer entre autres les bavardages de Kémis, Mrs. Roots, Mrs. Dreadful, Vert de règle, Badass Afrofemme, pour n'en citer que quelques-uns. Au début du XXIe siècle, les outils informatiques et la connexion Internet se démocratisent, rendant possible l'émergence de nouvelles voix. Amandine Gay affirme ainsi dans la préface à « Ne suis-je pas une femme de Bellux » qu'Internet représente donc un outil formidable d'émancipation. Gercio da Silva analyse ce phénomène dans son article « Empowerment féminin noir » sur YouTube en France. Ce phénomène du web participatif, Cardon 2010, est caractérisé par un concomitant élargissement et abaissement des normes de la prise de parole, Cranjon 2018. Pour les féministes, où la question de la prise de parole et de la lutte contre l'oubli est centrale, Internet a pu libérer leur imagination pour produire des discours innovants. Choix 2017. Les blogs créés par des femmes noires francophones deviennent alors des ressources documentaires inédites sur leur expérience. Ainsi, on peut lire dans Afrofemme du collectif Moissy, je cite, « Il est vrai que nous étions visibles principalement sur Internet grâce aux réseaux sociaux et aux blogs qui ont permis à beaucoup d'entre nous d'analyser nos vécus. Nos blogs parlaient d'un monde inconnu, la noire au féminin. » En effet, les personnes non blanches sont sous-représentées dans les médias français, d'autant plus les femmes noires qui sont doublement invisibilisées par la race et par le genre. Avec l'avènement d'Internet, elles peuvent enfin se raconter, montrer une autre vision que les personnages stéréotypés ayant cours dans le cinéma, la télévision et les romans français. Internet permet aux personnes qui n'ont pas le contrôle des médias de se réapproprier leur narration. Il permet aux subalternes de parler, en référence au livre de Gayatri Spivak, même si c'est par des canaux alternatifs beaucoup moins diffusés que les journaux ou chaînes nationaux et nationales.
Téton Marron alimente ses contes dans cette perspective de se réapproprier de la narration que définit Amandine Gay dans sa préface. Sur son site internet, elle affirme vouloir créer, je cite, « un média engagé qui se focalise sur les femmes noires et toutes les thématiques liées aux personnes afrodescendantes. » Elle aspire, je cite, « à être la première plateforme vers laquelle les femmes noires se tournent pour trouver une source d'information qui est à l'image de leur existence. » Téton Marron a pour but première de démontrer que force et courage ne sont qu'accessoires lorsque l'amour se trouve au centre de notre collectivité. Fin des citations. Dans les cadres de la discussion que nous proposons, la description donnée de la page attire notre attention parce qu'elle contraste les idées de force et de courage avec l'idée d'amour. D'ailleurs, dans cette description, l'amour est placé dans une position centrale pour la construction de l'image et l'estime de soi à travers une perspective de self-love et la construction politique d'une collectivité noire, perspective du black love. L'amour entre les marrons devient donc un sujet prioritaire parmi le débat suscité dans le conte. Nous y trouverons par exemple la célébration de la diversité souvent invisibilisée de couples noirs dans des registres photographiques. Mais la conception du black love ne se limitant pas aux relations à deux, nous y trouverons également des publications dont l'objectif est celui d'avancer l'idée de la sororité, surtout entre les femmes noires. Celle-là. Celle devant. entre les femmes noires. C'est l'exemple du registre de la rencontre entre Naomi Campbell et Adut Akesh, deux mannequins à différentes étapes de leur carrière, tous les deux lauréats du British Fashion Awards 2019. Dans la continuité de la célébration de la beauté des femmes noires, nous y retrouvons quelques publications sur le Miss Guadeloupe qui ont remporté le titre de Miss France, sous-titré Black Girl Magic. Des problématisations des formes de hiérarchisation raciale reproduites par des personnes noires elles-mêmes, comme la stigmatisation xénophobe des langues africaines ou créoles, y sont aussi adressées. Ces formes de stigmatisation vont dans les sens inverse de la solidification des liens entre personnes marronnes, sur la base du black love. Suivant la même logique, le conte problématise la participation des femmes féministes dans la reproduction des stéréotypes de genre qui cherchent à émasculer les hommes et produisent des masculinités toxiques. Avec le hashtag Black History Month, Téton Marron remémore Marielle Franco, l'élue brésilienne noire et lesbienne assassinée en 2018. La photo présentée transmet l'idée d'un appel à la sororité chez les lesbiennes noires et avec un féminisme noir anti-homophobe. Pour finir avec les exemples, le conte discute aussi les violences subies par les femmes noires aux cheveux crépus, exemple du cas de la mannequin Léomie Anderson. met un accent important et également mis sur la nécessaire valorisation de ce type de cheveux, notamment à travers la célébration et la récente remise de l'Oscar à l'animation Hair Love. On observe, à travers les exemples soulevés, la présence non seulement de hashtags en langue anglaise, mais aussi des perspectives dans un sens plus large avancées par ces hashtags. Ces perspectives se rejoignent dans l'idée centrale de prendre soin et de cultiver l'amour parmi les marrons. Leur participation dans la construction du safe space virtuel fait par et pour des personnes noires qui représentent le compte de ton marron est un réflexe de la circulation internationale d'idées qui enrichissent le vocabulaire de la lutte féministe.
La mise en avant de l'idée de l'amour entre noirs en tant qu'acte politique dans le conte corrobore les écrits de Bell Hooks dans son livre « Salvation, Black People and Love ». Pour Hooks, qui écrit dans le contexte états-unien, le processus de déshumanisation par lequel les personnes noires sont passées sert de justification pour la perpétration des violences contre eux. En conséquence, les noirs sont considérés comme, je cite, « incapables d'éprouver des émotions complexes telles que l'amour », fin de citation, mais aussi comme non susceptibles d'être aimés. Ces stéréotypes se reproduisent jusqu'à nos jours, notamment à travers une dimension de haine de soi intériorisée. L'autrice corrobore la perspective de James Baldwin et Lauren Hansberry, pour qui l'identité noire s'est forgée dans une lutte triomphante pour résister à la déshumanisation, de telle façon que le choix d'aimer serait alors une dimension nécessaire à la libération. C'était une citation. Pour cela, Hooks appelle à une éthique de l'amour comme plateforme de renouvellement de la lutte antiraciste progressive. Elle présente l'amour de soi, self-love, et l'amour des autres comme deux modes pour accroître l'auto-évaluation et encourager la résistance politique dans sa communauté. Ces mots rentrent en parfaite résonance avec un post de Téton Marron. Lorsque celle-ci décrit la perspective du Black Love, il s'agit de tout un concept qui permet aux personnes de la communauté noire à s'apprécier et à faire connaissance, réapprendre à se connaître et ce qui prend le plus de temps, mais c'est aussi le plus essentiel pour le bon fonctionnement de notre alliance. C'était une citation. L'expression Téton Marron affirme en même temps l'existence des femmes noires sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, et dans la société de manière générale, mais elle signifie aussi dénoncer la censure à la fois sexiste et raciste que subissent les femmes noires sur ces plateformes en ligne. En effet, les photos affichant les tétons féminins sont censurées sur Facebook et Instagram, à l'inverse des tétons masculins, et les comptes racistes subissent aussi cette censure en étant eux-mêmes taxés de racisme. Cette censure dévoile que les réseaux sociaux reproduisent les discriminations genrées et racistes à l'œuvre dans la société, comme l'a montré Judith Duportail pour Le Genre dans son livre « L'amour sous algorithme » à propos de Tinder. Les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, reproduisent alors par leur algorithme la fixité sociale décrite dans les travaux de Bourdieu. Alors que ces entreprises adoptent des images progressistes dans leur publicité et leur communication, elles refusent toute critique et toute évolution sociale.
Mais au-delà de la confrontation de la discrimination genrée perpétuée dans les réseaux sociaux, les tétons en question font référence à des corps féminins, des couleurs marron et de pratiques marrones. L'intitulé du conte invoque des images qui ne sont rarement perçues comme normales ou même comme belles dans l'imaginaire collectif des sociétés patriarcales. Le fait de se retrouver dans des corps féminins fait que les tétons, comme d'autres parties intimes de la femme, deviennent, je cite, « support plus ou moins obligatoire pour la représentation des fantasmes masculins ». Sexualisée, notamment à l'influence des images produites par l'industrie pornographique, ces parties du corps féminin sont généralement infantilisées et imaginées dans des tons rosés. Cela configure un processus de démarcation des limites désirables de la féminité, équivalent à ce que Camille Nurka et Bethany Jones, 2013, ont décrit comme, je cite, « déplacement de l'objection raciale sur les parties génitales et une production du corps féminin comme objet frontière sur lequel le désir de blanchir est transcrit ». Téton marron peut ainsi être considéré en titre disruptif. À travers son énoncé, il ramène l'image des femmes non blanches, souvent oubliées et rejetées, à un lieu de normalité, tout en se constituant dans un espace dans lequel elles peuvent se trouver, des repères importants pour forger leur identité d'innombrables fois imprononçables. Par rapport à d'autres comptes Instagram féministes ou antiracistes, l'expressivité du compte Téton marron en termes de nombre d'utilisateurs abonnés reste faible. Le moindre intérêt par le page qui adresse l'intersection entre les deux, entre l'antiracisme et le féminisme, viendrait confirmer une dynamique dénoncée dans les titres de l'anthologie afroféministe « All the women are white, all the blacks are men, but some of us are brave », 1982. celle de l'oubli et de l'effacement de la réalité vécue par des femmes non blanches. D'autre part, une telle comparaison rend évident à quel point les espaces où les personnes noires, à qui l'on généralement associe les sentiments de la haine, et les femmes noires plus précisément, sont invitées à trouver des repères pour s'aimer, restent dans l'image. L'amour faisant des femmes noires qui aiment des maroons.
Ces liens entre black féminisme et afroféminisme ont été développés par de nombreuses féministes noires françaises, et notamment Amandine Gay dans sa préface à « Ne suis-je pas une femme, femme noire et féminisme » de Bell Hooks. Dans cette préface, elle évoque le manque de transmission autour des luttes des femmes noires en France dans les années 70 et 80-90, comme la coordination des femmes noires ou le mot des faits. Cet héritage est invisibilisé, rompu, et dans l'histoire d'Amandine Gay, l'émancipation passe alors par le black féminisme. En effet, celui-ci naît dans un contexte américain où la lutte des personnes noires a quand même rendu possible l'émergence du féminisme noir américain au sein de l'université. Excusez-moi. Ces féministes noires américaines arrivent à poser les mots sur les discriminations qu'elles subissent, contrairement aux féministes noires françaises. Miranda Frick théorise ce phénomène par le concept d'injustice épistémique. Et dans Resisting Reality, Social Construction and Social Critique, Sally Aslanger définit cette notion comme le fait de souffrir de l'injustice herméneutique, de ne pas pouvoir être capable d'identifier le problème. Les afroféministes doivent alors lutter pour prouver qu'elles existent et que leurs combats sont fondés. Pour conclure, nous proposons l'hypothèse que l'utilisation du français pour alimenter son compte découle aussi de sa pratique marronne à téton marron. En effet, le français est la langue du colon. Dans la conférence « La traduction du black féminisme américain en contexte francophone », Laila Benajouja nous rappelle que si la colonisation française n'avait pas eu lieu, nombre d'entre nous ne parlerions pas cette langue et l'espace francophone n'existerait pas, ou du moins pas tel qu'il existe aujourd'hui. Laila Benajouja utilise alors un concept forgé par Kateb Yassine, la langue française comme butin de guerre. En effet, le poète ne l'a pas choisi, mais il l'a subverti pour écrire son œuvre. Eh bien, nous vous proposons de penser que Téton Marron, en élaborant un féminisme noir en langue française, utilise cette langue comme butin de guerre et subvertit à son tour la francophonie pour rayonner à l'international, tout en nous rappelant son histoire coloniale et le fait qu'elle a encore des conséquences politico-pratiques aujourd'hui dans le monde.
Merci beaucoup donc à Camille Rioux et Dandara Sosa. Je retiens l'amour fait des femmes noires qui aiment des marronnes et la langue française comme putain de guerre. Et donc je passe la parole à Emmanuel Brunel, qui est de la Sorbonne, en sciences de l'information et de la communication, et dont la contribution s'intitule Des afroféministes sur YouTube, médiation des savoirs et circulation numérique des discours de femmes noires militantes.
Super, merci. Donc, bonjour à tous. Merci infiniment, Noémie, pour ce passage de la parole et merci infiniment aux organisatrices de ce colloque pour m'avoir permis de présenter un travail de recherche sur les discours afroféministes sur YouTube. Donc, comme je vais le faire remarquer en début d'intervention, donc je me suis permis d'un petit peu changer le titre. Donc, j'avais proposé des afroféministes sur YouTube, médiation des savoirs et circulation numérique des discours de femmes noires militantes, que j'ai retraduit en médiatisation ordinaire d'une posture engagée. Donc, je vais essayer de faire comprendre pourquoi tout au long de cette intervention. Donc, simplement pour résumer un petit peu quels sont les objectifs que je me suis assignée lors de ce travail. Il s'agissait de montrer la dimension circulatoire des discours militants de femmes noires françaises sur YouTube. Quels sont les discours pionniers? Quels sont les relais contemporains? Quels sont les modes d'expression? Montrer également, d'un point de vue peut-être un petit peu plus méthodologique, comment appréhender le dispositif YouTube d'un point de vue sémiocommunicationnel. Donc je tenterai de vous expliquer un petit peu en quoi consiste l'approche sémiocommunicationnelle des dispositifs numériques pour appréhender en particulier la circulation du discours militant. Et également, dans les objectifs que je me suis assignés, il y avait l'idée donc de montrer un cas d'étude de discours à teneur engagée, interroger ce que fait l'usage du dispositif. Comme l'ont très bien souligné mes collègues tout à l'heure, effectivement, le monde d'Internet offre des possibilités de créativité et d'inventivité de l'expression qui sont potentiellement infinies. Donc moi, je me suis vraiment focalisée de façon plus particulière sur YouTube et également essayer de penser les types de discours et les types d'écrits d'écran. Donc vous êtes peut-être pas forcément familier avec ces concepts qui viennent donc de sciences de l'information et de la communication et qui permettent un petit peu de réfléchir aux reconfigurations des types de mise en discours en ligne. Donc le plan de la présentation d'aujourd'hui que je voulais vous proposer va être articulé en quatre temps. Donc d'abord rapidement revenir un petit peu sur la genèse d'un travail de recherche sur les discours afroféministes françaises contemporaines. Dans un deuxième temps, regarder comment est-ce que dans cette recherche j'ai appréhendé donc le discours des afroféministes françaises sur YouTube. Et ensuite vous proposer quelques points de problématisation avant de revenir sur mes analyses des contenus des vidéos et mes interprétations. Donc, pour revenir un petit peu sur la genèse de ce travail de recherche, pour vous raconter un petit peu ma vie, 5 minutes, ça fait donc 7 ans que je suis en thèse de doctorat, donc évidemment non financée, à Sorbonne Université en sciences de l'information et de la communication. Et donc, j'ai commencé à travailler sur les rapports sociaux de race médiatisés. Donc moi, évidemment, la question que je me pose, c'est pas en tant que sociologue, c'est plutôt en tant que sémioticienne et en tant que linguiste. Qu'est-ce qui se passe dans la circulation du sens dans la société en termes de rapports sociaux de race? Voilà, ça c'est vraiment de grand angle sur les problématiques de mes recherches. Et donc, en fait, en 2015, nous étions ensemble avec Carmen Diop, que vous avez peut-être entendu hier si vous étiez là, à un colloque qui était pas loin d'ici, à la Maison des sciences de l'homme, de Paris Nord, qui s'appelait « Rapports sociaux de race, résistance et perspectives critiques ». Donc c'était déjà il y a 5 ans. Le temps passe très vite, surtout en thèse. Et donc qui était organisé via l'association EFIGI, qui est un réseau d'études sur le genre, par une doctorante qui s'appelle Marie-Shirley Valzema. Donc ce colloque, où j'étais présente en même temps que Carmen Diop, était un premier, on va dire, jalon un petit peu en France, et c'était déjà considéré comme quelque chose d'inédit. Donc aujourd'hui, encore un grand merci aux organisatrices, parce que j'ai l'impression que les choses ont énormément bougé et ont énormément évolué. Il y a 7 ans, dire qu'on faisait une thèse sur l'antiracisme français, on pouvait se voir opposer simplement « mais de quoi tu parles? Il n'y a pas de racisme en France, fin de l'histoire ». Donc, ce qui était toujours un petit peu compliqué. Les recherches que je mène sont assez larges et transverses, avec comme point commun donc cette question des rapports sociaux de race médiatisés. Un petit point qui m'a aussi continué à me questionner, c'était la fois où j'ai été invitée à organiser un séminaire qui s'appelle « Pour une iconographie politique des dominés ». Dans laquelle donc j'avais organisé une séance sur l'iconographie des femmes noires dans la presse francophone, et j'avais invité à cette occasion donc Virginie Sassoon, qui a beaucoup travaillé sur la presse noire féminine et en particulier sur la publicité pour les produits blanchisseurs, et qui nous avait donc donné une intervention sur ses recherches doctorales. Et elle avait invité à cette occasion donc deux duos de journalistes que je tiens à remercier pour leur travail de médiation et de vulgarisation des savoirs. Donc celles qui ont fondé l'Afro le site, qui s'appelle donc Adia Ratou, Adia Rasouba et Dolores Bakela, et l'autre duo, avec Chanel Chénin et Adama Anoto, qui ont fondé le site Nothing But The Wax. Donc ces moments un petit peu de rencontres dans le cadre de différentes recherches que j'ai pu mener m'ont de plus en plus conduite sur la voie des afroféministes françaises. Donc à cette époque-là, je suis assidûment le film qui est en cours de préparation. Amandine Gay poste de façon régulière des éléments sur l'avancée de son film sur YouTube, donc qui est sorti maintenant depuis un certain temps et que vous avez probablement déjà vu, et qui est un documentaire à l'esthétique hyper réaliste qui propose des portraits vraiment esthétiquement très travaillés de cas ordinaires de femmes qui racontent le sexisme, le racisme expérimenté dans différents contextes. Donc le film, bon voilà, que vous pouvez voir et dont vous pouvez retrouver la bande-annonce sur YouTube. Et également très médiatisé, enfin bien plus que les comptes que j'ai analysés moi pour l'article d'aujourd'hui. Évidemment, le collectif Moissy est présent sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, et puis évidemment en ligne via son site. J'avais fait une petite analyse sémiotique un petit peu poussée dans un article du peigne qui représente donc le logo de Moissy, qui est donc un peigne afro qui est spécialement conçu pour coiffer les cheveux crépus et qui est ornementé d'un point levé ainsi que d'un symbole féminin le symbole biologique de femme. Donc ça, c'est des petits éléments comme ça. En fait, moi, je suis très attentive à tous les petits détails des modes de communication, parce que je pense que c'est porteur de beaucoup de sens et de beaucoup d'interrogations aussi, des manières de faire et des manières de se représenter. J'avais également identifié le collectif Swatch, parce que tout ne se passe pas qu'à Paris, qui est un collectif afroféministe lyonnais, qui est également présent sur Facebook et qui était présent au festival Nyan Sapo. Donc, pour simplement un petit peu remettre... dans le contexte de la recherche, les interrogations qui sont les miennes, il s'agit donc d'étudier les modes de communication des afroféministes contemporaines en regardant un petit peu les thématiques qu'elles s'approprient et surtout qu'elles problématisent politiquement. Donc les oppressions au quotidien, les micro-agressions liées au patriarcat raciste que j'ai pu requalifier grâce à Fania Noël de Blantriarcat. Et donc c'est Fania Noël qui propose la définition de Blantriarcat dans l'une des vidéos que j'ai analysées. Donc c'est son expression que je reprends et je la cite pour cela. Et évidemment la notion de misogynoire qui elle a une traduction en français, mais qui est elle-même, après vous savez très bien ça mieux que moi, est un concept qui est anglophone, mais qui s'écrit misogynoire en anglais. Donc misogynoire s'écrit comme ça, et en anglais, on dit misogynoire aussi. Les problématiques corporelles, dont vous avez très bien parlé avec le cas de Téton Marron, de façon beaucoup plus poussée que dans les vidéos, sont très présentes sur YouTube, maintenant Instagram, on l'a vu, également Facebook, donc la mode, la beauté, la réappropriation de soi, l'image de son corps, évidemment toujours dans une perspective de lutte et d'émancipation. Évidemment, dans les modes de communication, on a, comment dirais-je, ce que j'appelle deux niveaux d'articulation. On a souvent des personnes qui communiquent sur ce que d'autres personnes communiquent. Donc ça fait une sorte de méta-médiation, ou ce qu'on appelle un niveau méta-médiatique, c'est-à-dire que le Facebook, le YouTube et maintenant l'Instagram est un espace pour aller pointer vers d'autres documents médiatiques, par exemple des articles de presse, des billets de blog, de la documentation scientifique, et évidemment la promotion également d'événements, comme au moment de Nyan Sapo, il y avait énormément de posts sur le compte Twitter et Facebook de Moissy, et évidemment pas mal d'images. Pourtant je parle très très vite, mais il y a beaucoup beaucoup de recherches, donc c'est un petit peu compliqué d'aller plus vite. Donc j'ai mis quelques images des manières de se réapproprier les images de la part de Moissy lorsque il propose le hashtag la flamboyance, qui est après évidemment redistribué dans d'autres espaces de médiation. Donc pour vous parler rapidement des recherches que j'ai menées au niveau des discours sur YouTube, il s'agissait donc évidemment d'appréhender YouTube comme un dispositif de communication qui fait circuler des discours à teneur engagée. Les vidéos étaient de deux natures, et c'est là où c'est très important de bien qualifier la source et qui prend la parole et qui donne la parole à qui en ligne également. Donc j'avais identifié l'invitation de Kiemis à une émission de Mediapart et l'invitation de Mani Chronique, qui est également une blogueuse afroféministe, dans une émission donnée par Chic Magazine. Et ensuite, trois autres vidéos qui étaient en fait des entretiens que proposait Mrs. Root à trois de ses consoeurs. Le caractère évidemment youtubistique de la circulation ne fait pas forcément la dimension militante. Donc c'est également sur ça que j'ai essayé un petit peu de poser mon regard. C'est est-ce que le fait d'utiliser YouTube fait qu'on se désinscrit des modalités institutionnelles de possibilité de parler? Eh bien justement, pas forcément. Faut passer de la méthode. Donc les spécificités sémiotiques du discours médiatisé en ligne sont évidemment celles que l'on peut retrouver également dans d'autres types de plateformes. Facebook doit aussi s'analyser de façon aussi fine que YouTube. Et évidemment, quelque chose de très important, enfin qui nous tient beaucoup à cœur en sciences de l'information et de la communication, c'est de regarder tous les petits signes, tous les petits indices et tous les petits éléments qui sont visibles et disponibles. Donc pour vous montrer le corpus, juste au moins pour vous montrer le corpus, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps, j'avais identifié ces vidéos-là. Donc l'article que j'ai publié dans la revue du CIRCAV, qui est une revue de sciences de l'information et de la communication de l'Université de Lille, proposait d'analyser donc une vidéo de Kiemis lorsqu'elle est mise en scène par Mediapart, Mani Chronique par Chic Magazine, et ensuite des vidéos qui sont faites par des youtubeuses. Donc voilà la vidéo qui fait parler Kiemis, donc c'est Mediapart sur YouTube qui fait parler Kiemis, que j'ai analysé donc de fond en comble. Donc j'ai analysé chaque séquence en détail. Elle intervenait à l'occasion de Nyan Sapo en tant qu'experte afroféministe pour parler. Ensuite, donc ça c'est les captures d'écran de la vidéo de Kémis. Chic Magazine invite Mani Chronique pour parler du renouveau de l'afroféminisme. Donc Chic Magazine faisait un événement. Les vidéos des, donc ça c'est les vidéos des médias institués. On peut dire que ce sont simplement des prétextes à faire parler les afroféministes en tant qu'expertes pour pouvoir dire on a fait un sujet là-dessus, c'est bon, c'est fait. Alors que dans les entretiens des blogueuses, donc par exemple les entretiens qui sont proposés par Mrs. Root sur sa chaîne, on a une rencontre avec donc ses consoeurs. On a Sharon, donc j'ai analysé en entier la vidéo où Sharon prend la parole grâce à la médiation de Mrs. Root. Ensuite, celle, donc ça c'est très intéressant, un point que j'ai identifié qui est particulièrement, je pense, réflexif pour la problématique qui nous occupe dans ce colloque, c'est que, c'est un point que je développe dans l'article, c'est que finalement la posture afroféministe telle que je peux l'observer dans ces auto-médiatisations ou médiatisations entre consoeurs, c'est qu'elle est finalement plus universaliste que le discours universaliste républicain. Quand on voit Sharon expliquer que en fait lire de façon un petit peu décaler les oppressions, c'est pas juste dire on est une femme noire et point. En fait, c'est déjà commencer à déconstruire l'ensemble des possibilités de réflexion sur les oppressions. Et donc ça c'est une slide qui est très importante pour moi, c'est en fait de montrer que peut-être le discours afroféministe est le plus universaliste de tous, voire le plus intéressant en termes de déconstruction des oppressions. Donc Fania fait aussi tout ce travail-là de façon extrêmement brillante. Et la médiation aussi qui m'intéresse, mais Jair Chou va en parler de façon plus approfondie, celle de Clémence qui fait énormément de pédagogie et qui a aussi un travail sur la non-mixité, le colorisme et l'appropriation culturelle qui, pour les personnes qui s'intéressent à ces questions, sont extrêmement claires. Elle a une clarté d'expression qui est vraiment formidable et qui, questionne la dimension hégémonique et du patriarcat sexiste, en fait, tout simplement, et raciste, évidemment. Donc, pour terminer, ce que... j'ai fait beaucoup trop d'éléments. Ma conclusion, c'est... Oui, je sais. Mais je vais du coup juste parler simplement les thèmes récurrents qui sont dans les vidéos, misogynie noire, intersectionnalité, évidemment. Mais du coup, problématiser chacune un petit peu à sa façon. Et l'articulation entre les différents types de regards est très riche, en fait. Donc du coup, quand Mrs. Root fait parler toutes ses consoeurs, c'est parce que chacune apporte quelque chose de différent et complexifie les questionnements. La non-mixité militante, toujours elles se font acculées comme « mais c'est quoi cette non-mixité ? Pourquoi vous voulez parler qu'entre femmes noires ?» etc. Donc ça, c'est un truc qui revient souvent où elles ont toujours l'impression de devoir se justifier. Et donc là, du coup, dans la vidéo, elles disent « bah on ne se justifiera pas » parce qu'après, elles expliquent pourquoi de façon très claire. La sororité, la solidarité, le soin de soi, la posture multi-anti. Donc Sharon a un discours complètement universaliste, en fait, pour moi, essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire un véritable universalisme non patriarcal, sexiste, républicain, c'est écouter le discours afroféministe, en fait. Donc, la lutte anti-blanc-triarcale qui est proposée est intéressante dans la mesure où c'est un questionnement fécond pour repenser les catégories politiques. La déconstruction critique qu'elle propose de l'universalisme est tout à fait pertinent. Et puis évidemment, l'ouverture de l'imaginaire par la promotion d'une créativité autre qui passe notamment par les réseaux sociaux, mais aussi par le fait qu'elle se les approprie d'une façon créative. Et évidemment, le renouvellement du langage qui est déjà un renouvellement des questions de pouvoir finalement. Donc pour terminer, finalement, dans ces vidéos, la présentation de soi, là je fais référence un peu à Goffman et à la question de la manière de se présenter en public, quand bien même ce public serait restreint à quelques spectateurs de YouTube, qui sont de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos, est une manière aussi de se poser dans l'espace public, de dire « bah ok, moi je suis pas invitée chez TF1 aux 20h pour parler d'afroféminisme, mais moi j'ai une chaîne YouTube et je vais faire quelque chose et dire quelque chose qui n'a pas de possibilité d'avoir une place en fait dans l'espace public et médiatique français aujourd'hui. » Donc mon hypothèse, c'est que ces discours afroféministes reproblématisent et repolitisent les savoirs sociaux et historiques des femmes noires françaises, évidemment du passé comme du présent, et on en a un très bel exemple avec tout ce qui a été proposé aujourd'hui, dans le cadre de ce colloque. Et évidemment, tout cela reste à creuser, et les analyses de discours également sur Instagram et d'autres plateformes restent à faire. Donc, merci beaucoup pour votre attention, et désolée d'avoir pris un peu trop de temps.
Merci beaucoup Emmanuelle Brunel. Donc je retiens bien évidemment que les afroféministes sont les plus universalistes de toutes. Et je donne la parole à Anaïs Noni, qui nous vient de la University of Fort Hare, avec une contribution intitulée « La diffusion du féminisme noir à l'ère des plateformes numériques ».
Merci. Alors, je souhaite vraiment remercier les organisatrices du colloque pour avoir pris en charge mon billet d'avion depuis l'Afrique du Sud, sans quoi je ne pourrais pas être parmi vous et je voudrais vraiment le mettre en avant. Je souhaite aussi prendre un moment pour prendre soin de cet espace que nous avons et de dire que nous sommes en banlieue. Et donc, à la marge du centre ou du cercle, comme dirait Fred Moten, permettant ainsi d'insérer une géographie manquante au discours que l'on tente de penser ensemble. Enfin, je voudrais m'inscrire dans une question rappelée par la présidente de session et formulée au début de ce colloque par Fatousso, à savoir, avec qui sommes-nous en dialogue ? Cette question s'ouvre sur un « nous » qui échappe à ma positionnalité de blanche. Et pourtant, ce « nous » me concerne. L'expérience vécue de la femme noire me concerne tout autant qu'elle me regarde. Je ne suis spécialiste ni du féministe, ni du féminisme, ni de la race et de ses systèmes oppressifs comme ces derniers mutent toujours vers de nouvelles formes d'assaut. Pourtant, une chose m'a poussée à vouloir participer au dialogue. En tant que théoricienne des médias et philosophe des techniques, plus je m'éduquais aux textes de subversion sociale émancipatrice et de conscience de race, plus je sentais un rapprochement entre le sujet politique racialisé, qui tente de se défaire des carcans hérités de l'impérialisme blanc, et le sujet formé par une économie issue de la modernité impériale profondément normative. J'ai donc commencé à nommer les technologies néocoloniales qui, sous couvert de progrès techniques, continue d'inscrire une sémantique de l'oppression à travers un impérialisme interne, opaque, tout contre le droit à l'opacité de glissant. Les nouvelles technologies de traçabilité algorithmique défont l'espace possible d'un mode d'existence fugitif pour imposer un assujettissement raciste si utile et si nécessaire au capitalisme et à son économie digitale. Que ce soit par le travail de Safia Muja Noble, qui démontre en quoi les structures digitales inscrivent une normativité racialisante, celui des discriminations sinistres, codifiées, automatisées et dont le design empêche tout accès au mode performatif et son inscription technologique dans nos modes de vie par Yuha Benjamin. Et enfin, il faudrait parler du numéro spécial de Camera Obscura qui offre à penser la race comme technologie gouvernementale, comme outil créé et instrumentalisé pour imposer un régime disciplinaire thanatopolitique, dirait Fanon avant Michel Mbembe. Face à une technoscience carcérale et à un biocolonialisme rampant, pour reprendre la formule de Paul Gilroy, je souhaiterais vous présenter des formes d'activisme fugitif et diffusé sur les plateformes numériques. Je dis plateformes et non réseaux sociaux, car la fenêtre qui est donnée à voir aux utilisateurs de Facebook, Instagram, Twitter, etc., n'est qu'une fine partie de tout un système tentaculaire de collecte de données et de contrôle à distance. Par diffusion, je parlerai de transfert communicationnel d'une donnée qui passe dans un réseau d'échange, le plus souvent public, et donc mis à la merci d'un lecteur, consommateur, utilisateur, parfois connu, parfois anonyme, souvent en réseau. Par féminisme noir, et là je mets le pied dans la soupe, mais je voudrais proposer quelque chose à discuter. Je parlerai d'un féminisme qui centre l'expérience vécue de la personne opprimée de façon raciale et genrée au centre de la lutte émancipatoire. En tant que femme blanche, je m'engage à dénoncer l'institutionnalisme culturel et technologique qui constitue les conditions de possibilité de cette oppression. Et ce que j'aimerais discuter, c'est donc la distinction nécessaire entre l'expérience et la connaissance de l'expérience vécue et la connaissance de la structure institutionnelle produisant cette expérience. Donc je vais vous montrer quelques plateformes et quelques outils qui ont été utilisés au niveau international. Alors, je vais vous parler de Rachel Elizabeth Cargill, qui a mis en place un site à travers son site, sa plateforme Instagram, et qui, avec l'article qu'elle a écrit « When Feminism is White Supremacy Heals », elle a reçu une grande attention. Et quand je dis attention médiatique, ça veut aussi dire une grande violence dans la réponse et une grande haine qu'elle a dû et qu'elle continue de voir se protéger et protéger sa propre communauté. Ça lui a permis également de lever plus de $200,000 en fonds pour mettre en place un système d'accès à la thérapeutique psychologique pour les femmes noires et les jeunes filles noires. Donc ça, c'est aux États-Unis. Dans le Moyen-Orient, il y a Leila Sahad qui a mis en place un défi qui s'appelle Me and White Supremacy. Et j'invite toutes les personnes blanches dans la salle à relever ce défi. Ça dure un mois. Et ça déconstruit de façon systématique une grande partie des privilèges qui, sans effort conscient, ne se font que se répéter. Son travail, qui est devenu un best-seller il y a juste quelques semaines, vraiment invite à penser la façon dont on peut peut-être réinventer la question de la agency, de la libération économique quand on parlait tout à l'heure avec Cécile. Et ces plateformes offrent une façon de repenser la possibilité de se créer aussi une économie et une indépendance économique à travers les plateformes digitales. Bon, parce que ça, je ne pouvais pas ne pas vous présenter une star de l'Afrique du Sud qui s'appelle Coco Kells et qui défait de façon absolument pinçante, qui fait une satire de la situation en ce moment en Afrique du Sud. Et donc, elle se déguise avec un accent sud-africain blanc, donc Afrikaner, white Afrikaner. Donc, je vous mets une vidéo parce qu'elle est tellement importante. Et je trouve que c'est important de réévaluer l'importance de la satire. Et la satire, c'est Audre Lorde qui en parle beaucoup, qui parle justement que si les femmes de couleur ont de la colère, c'est souvent vers de la haine c'est en retour, elles reçoivent de la haine, une haine qui détruit. Et la satire devient un moyen aussi de déconstruire cette force qui détruit.
god, LOLs, it's Celine. Hi guys, I just got my makeup done for the Sona after party for interns and tokens. How's my lip? It's like Kylie Jenner, you know, I had to overline it because I've got thin Caucasian lips. But yeah, I'm not too big like an African. I've been seeing this challenge on Black Twitter. Yikes. So let me try. Hoyamora Almal, ik het, no. No, I can't. Sorry, guys. I went to private school. We did conversational Yiddish and Fanagalo for the help. So think about it.
Donc son think about it, c'est sa marque de conclusion de chaque vidéo. Donc il me reste 5 minutes. J'ai choisi d'adopter une méthodologie que nous offre Sadia Hartman et qui est de surtout ne pas vous montrer la vague de violence absolument incroyable que ces postes ces positions déferlent. Parce que quand on parle justement de plateforme numérique, il faut savoir qu'il y a la mise en danger, la mise en visibilité de ces figures qui doivent aussi se protéger. Donc je préfère les montrer en force et non pas en vulnérabilité, mais ça prend... en théorie des médias, la proposition de Charles Sandoval est très intéressante parce que c'est une présentation, c'est une proposition où on parle d'une conscience cybernétique, une conscience du réseau avant tout, avant que ça soit une question du sujet ou une conscience de l'objet. Et donc cette force du network, de l'ensemble, du réseau ou de la relation, dirait glissant, mais à l'ère des technologies numériques, c'est quelque chose que je voulais vous présenter. Enfin, pour conclure, j'ai la chance vraiment absolument inouïe d'être au Cap. Et pas très longtemps, en janvier, il y avait une école décoloniale dans l'université blanche néolibérale du Cap, qui est UCT, University of Cape Town. Très, bien sûr, il n'y avait pas de blancs dans la salle. C'est très étrange comme situation. Le Cap est très, très, très compliqué, très complexe. Mais il y a eu une présentation de Zodwar Radebe qui a fait un challenge que je vous lance parce qu'on était sur le continent et personne n'arrivait à trouver à résoudre cet exercice. C'est un exercice du 4-3-2-1. Vous prenez votre sujet de recherche, ou votre sujet d'intérêt, et vous essayez de trouver 4 spécialistes africains sur le sujet qui doivent être nés sur le continent. 3 du Third World Countries, Scholars, Latin America, Caribbean. 2 et seulement 2 afro-américains. Et puis un blanc, voilà, facile. La raison pour laquelle je parle de cet exercice, c'est que les femmes professeures du continent qui étaient là et qui présentaient, elles-mêmes, elles ne trouvaient pas leur travail sur les moteurs de recherche. Leur propre travail, des personnes qui ont publié 5, 6, 7 livres, et qui savent utiliser les moteurs de recherche. Donc, je dis ça pour aussi inscrire la plateforme numérique. Google Scholar est une plateforme numérique. Toutes les plateformes numériques de recherche sont importantes. Donc, on a le Wikipédia noir, on a des tentatives comme ça. Donc, quand vous écrivez un article... faites attention, bien sûr, citez, mais surtout indexez. Parce que l'indexation, c'est la seule chose qui fait que quand on est sur un continent qui n'a pas accès au catalogue, et quand on fait toujours des recherches de gangsters, où il faut toujours qu'on vole les articles, l'indexation, c'est la seule moyen de rendre visibles les auteurs. Donc voilà. Merci.
Merci beaucoup Anaïs. Noni, je trouvais très intéressant ce que vous disiez sur l'ambivalence de l'attention, que l'attention c'est bien et violent à la fois. Et je donne la parole à Jaercio da Silva de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, qui est en sciences de l'information et de la communication. Et le titre de sa contribution, « Les conditions d'émergence d'un discours militant et intersectionnel sur YouTube en France ».
Bonjour. Je voulais d'abord évidemment remercier les organisatrices du colloque d'ouvrir la possibilité de partager un peu de mon projet de recherche en thèse et surtout d'avoir accepté deux communications sur des femmes afroféministes sur YouTube. Je pense que ça sera évidemment complémentaire dans le sens qu'on n'a pas exactement la même approche, même si on est inscrit dans la même discipline. Donc ma présentation, elle porte sur comment l'intersectionnalité, elle quitte l'sphère académique pour se transformer en mobilisation sur YouTube. Dans cette perspective, l'intersectionnalité, elle sera utilisée comme terrain à travers lequel je propose une analyse de ce que j'appelle provisoirement le mouvement intersectionnel ou la cause ou les causes intersectionnelles. Je m'interroge donc plus particulièrement sur comment ce concept qui est intellectuel, militant et controversé va être approprié par des individus dans différents supports numériques, donc de vidéos, podcasts, blogs, etc. Et plus particulièrement ici aujourd'hui par un groupe de afroféministes sur YouTube. Pour aborder le sujet, je présente une étude des cas, donc à partir de 6 chaînes YouTube, de 6 chaînes de vidéos sur YouTube, donc celle d'Amandine Gay, de Clémence, d'Alma, de Missy Roots, Naya Ali et Lawana. Plus concrètement, mon analyse, elle s'appuie sur les 163 vidéos publiées par ces youtubeuses jusqu'à septembre 2018. Et des entretiens avec trois d'entre elles, donc j'ai pu rencontrer Alma, Clémence et Elawan. Pour combler le manque d'informations sur Amandine Gay, Missy Roots et Naya Ali, j'ai trouvé des publications dans différents médias qui font référence à leur personne et dans la même période. Et j'ai aussi participé à une soirée débat lors du lancement du documentaire Ouvrez la voie par Amandine Gay au cinéma 104 à Pantin. Quand on parle de femmes noires sur YouTube, donc il existe une multitude de chaînes qui abordent de sujets complètement différents les uns des autres. Comment je fais, moi, pour construire ces corpus? Donc il s'y trouve que ces 6 youtubeuses, elles sont toutes francophones. Elles s'y autodéfinissent femmes, noires et militants afroféministes. Soit explicitement dans leur biographie, soit dans leur production des vidéos. Si la haute désignation en tant que femme et noire ne constitue pas un critère déterminant pour la constitution du corpus, leur position militante revendiquée, oui. Donc le fait qu'elle s'y autodésigne afroféministe, c'était important pour la constitution du corpus. La méthodologie de travail, elle commence par une ethnographie en ligne, dans le but d'identifier les acteurs du terrain, donc qui pourraient constituer le corpus. Il faut le dire que cette entrée par le terrain, par des outils numériques, m'a permis de circuler sur les différents contenus sans se faire remarquer et donc sans être perçu dans un premier temps comme outsider, donc comme quelqu'un extérieur. Ensuite, après cette première étape qui était très exploratoire, je suis passé donc aux entretiens dans la démarche de construire mes hypothèses en partant du bas, c'est-à-dire de le forger à partir de la rencontre avec ces youtubeuses. Donc, il y a aussi, j'ai réalisé une analyse qualitative du contenu en vue d'étudier l'usage de la plateforme, leurs propos et l'organisation des publications, ainsi que les interactions qui sont établies sur les commentaires. Cela a impliqué très concrètement des heures et des heures de visionnage et retranscription de vidéos publiées sur ces chaînes. Et comment je suis arrivé là à ces sujets? Il est très difficile encore pour moi de préciser exactement le moment où j'étais interpellé par ces questions, donc d'intersectionnalité, d'afroféminisme. À l'origine, mes recherches, elles portaient de manière très large sur YouTube et le féminisme en France. Une bonne dose d'hasard m'a amené aux premières vidéos sur l'afroféminisme, donc spécifiquement les vidéos de Clémence. Et là, je trouvais un sujet qui, il me semble, n'est pas assez encore étudié en France, car évidemment, il implique de nombreuses difficultés méthodologiques, épistémologiques et même politiques auxquelles le chercheur doit faire face. Accéder au terrain a constitué pour moi l'un des défis de ce travail qui était préparatoire pour ma thèse, ma thèse qui est en cours. Accéder au terrain a été l'un des défis parce que j'étais souvent obligé ou renvoyé à justifier la tenue de mes propos et de mes motivations en tant que jeune chercheur. Dans ces contextes, j'ai le sentiment que ma position en tant qu'étudiant et en tant qu'étudiant étranger a finalement collaboré pour faciliter mon accès au terrain et aussi pour justifier le choix de ces sujets de mémoire à l'époque et aujourd'hui des thèses à l'université. Pour cette présentation, les analyses qui vont suivre visent donc à répondre à la question suivante. Sur quelles conditions ce type de discours peut-il se faire entendre sur YouTube ? Pour cela, je divisais donc la présentation en trois temps. Dans un premier temps, pour parler des conditions matérielles. Un deuxième temps, pour parler des conditions de la plateforme. En troisième temps, pour parler des conditions donc qui sont politiques. Cela va me permettre donc d'aborder leur mode de production, le réglage de leur identité sur la plateforme, l'usage du YouTube comme espace de pédagogie, politisation et aussi de mémoire. Donc, pour commencer, sur les conditions matérielles. Dans leur mode de production, donc avant de se lancer devant la caméra, ces youtubeuses sont confrontées à la nécessité de trouver un sujet et de préparer des arguments pour le concernant. La sélection de thématiques pour une vidéo n'est jamais neutre. En choisissant un sujet au détriment d'autres, leur choix est fait depuis un point de vue spécifique, donc qui est socialement situé. Concrètement, le sujet des vidéos part de plusieurs inspirations, mais elles ont souvent deux motivations principales. Soit il est le résultat d'une réflexion sur la condition de femme noire, soit il est le résultat d'un vécu personnel en tant que femme noire. Les échanges sur les réseaux sociaux numériques, et spécialement sur Twitter, et l'actualité médiatique sont aussi des sources d'inspiration pour ces youtubeuses. Une fois que le sujet est défini, elles s'imposent donc un processus de recherche pour s'instruire sur la question qu'elles abordent. Toute cette préparation pour définir le thème, faire des recherches sur le sujet, écrire un script et faire le tournage exige surtout du temps. Il ne faut pas oublier qu'elles font ce travail à côté d'autres activités professionnelles ou universitaires. Et dans ces conditions, arriver à publier une vidéo demande un temps supplémentaire qui va rendre leur travail moins réactif dans le sens où elles n'arrivent pas à respecter une régularité d'une vidéo à l'autre. De plus, les contraintes matérielles et techniques auxquelles elles font face sont nombreuses. Pour que la vidéo soit prête à être publiée, ces youtubeuses ont en général deux défis à surmonter. D'abord, elles n'ont pas forcément bénéficié d'une formation leur permettant de faire une bonne capture de l'audio et de l'image. Il en va de même, évidemment, pour le montage. Donc, par exemple, Elawan nous explique que le manque de lumière que nous remarquons sur certaines de ses vidéos est dû au fait qu'elle s'enregistre avec son portable et qu'elle dépend de la lumière extérieure. Donc, elle dit, là où j'étais avant, j'étais dans une petite appart, un petit studio de 17 mètres carrés, où il y avait une seule fenêtre et je m'étais débrouillé pour être proche de la fenêtre et qu'au moment où je filme, le soleil passe parce que c'était le seul moment où je savais que je pouvais être éclairé. Ensuite, la qualité des appareils employés, donc les caméras, micros, lumière, ne sont pas forcément optimales. Donc, au contraire des youtubeurs à succès qui ont souvent une équipe de travail à leur côté, cette précarité technique a conduit à une qualité esthétique donc qui est limitée. Donc, on voit le manque de lumière, la qualité du son, de l'encadrement. Néanmoins, ne pas avoir une équipe à ses côtés, laisse donc la possibilité de gérer la totalité du projet, sans devoir concilier les intérêts d'un possible sponsor et sans soumettre un regard extérieur qui pourrait influencer leur production. Cette indépendance est très importante donc pour ces youtubeuses qui cherchent à faire de la pédagogie sur l'afroféminisme d'une façon ouvertement militante et aussi indépendante. Donc il y a Clémence qui nous explique « J'ai la main entièrement sur mon projet. Je me dis que j'aurais peur aussi de mettre mon projet dans les mains d'une personne qui ne partage pas les mêmes idées que moi, qui voudrait éduquer ma pensée ou la modifier ou encore apporter des jugements, des modifications que je ne voudrais pas et que ça me permet d'avoir la main sur tout de A à Z. » Pour les conditions matérielles, les questions du temps, les questions de matériel au niveau des outils qu'elles utilisent, mais aussi donc la possibilité de gérer son projet de A à Z. Pour les conditions de la plateforme, en tant que plateforme de vidéo, YouTube leur permet de créer de nouvelles formes d'exposition de soi. Dans notre cas d'étude, la décision de créer ces espaces numériques a pour élément qui est déclencheur dans plusieurs de cas, une souffrance ou une colère liée au fait de ne pas pouvoir contrôler son image dans les médias et dans les productions culturelles. Il y a Alma qui, dans une des vidéos, elle dit « Parce qu'on parle souvent de nous, mais sans nous, on nous montre, on nous dénonce, on nous accuse, on nous demande, mais on nous demande jamais comment ça va et on nous écoute encore moins. Cependant, donc, garantir une visibilité positive de soi signifie donc très concrètement. Je vais demander encore 2 minutes de plus. Ça marche? Ouais, très bien. Donc, comme je disais, garantir une visibilité positive de soi signifie très concrètement maîtriser son contenu sur la plateforme, donc le choix de mots, d'images, de mise en scène, mais aussi de maîtriser le dispositif technique, c'est-à-dire donc avoir les capacités nécessaires pour arriver à négocier avec les impositions de l'outil et de l'algorithme. Pour Alma, l'avantage, elle vient avec les multiples possibilités de format. Pendant les entretiens, elle me dit « YouTube donne la possibilité de faire des vidéos hyper speed à la norme, ou d'aller au contraire sur le format conférence où on va hyper lentement. Il y a plein de formats différents où on peut trouver le niveau de discours, le rythme qui correspond à chaque fois à ça qu'on veut dire. Du côté de contenu, cependant, certaines de leurs vidéos sont rangées dans la catégorie interdit au moins des 18 ans. Et ça, de façon arbitraire par la plateforme. Ce qui est arrivé avec Clémence, par exemple, avec la vidéo sur la négrophobie, sans qu'elle ait le sentiment d'enfreindre les règles de YouTube. C'est-à-dire, cette vidéo, elle n'a pas de nudité, elle n'a pas de consommation d'alcool, elle n'incite pas à la violence. Elle juste parle de la négrophobie. Donc, YouTube, elle entend que ça, c'est interdit de au moins de 18 ans. Tout cela, donc, a des répercussions sur la monétisation de ces vidéos, mais aussi sur la classification de recherche faite par les internautes sur le moteur de recherche, et conséquemment, donc, sur le nombre de vues sur leurs vidéos. En outre, YouTube, elles sont présentes sur une plateforme, donc, à image d'un phare, invite ses utilisateurs à multiplier leurs relations et à accumuler le plus de contacts possible. Même si ceux-ci sont fragiles, incertains, irréguliers, je dirais même indésirables. Pour cela, elles sont souvent amenées à justifier leur entre-soi, qui ne serait pas permis par les caractéristiques même de YouTube. Si nous regardons donc du côté des interactions, les chaînes YouTube seraient un espace tout aussi ambivalent, brutalisant et stigmatisant pour ces femmes. Souvent, le lieu d'expression d'un racisme, sexisme décomplexé qui se fait visible, la boîte de commentaires est un exemple où nous pouvons trouver des expressions de tout ordre, donc qui commencent par le remerciement, mais qui aussi de réprobation, critique, offense et menace. Quelques internautes profitent de ces espaces donc pour démontrer une incompréhension et surtout remettre en question l'importance de maintenir cet espace de dialogue. Protégées, donc, ces youtubeuses, elles vont construire une vie numérique sur plusieurs supports en cachant les informations à caractère personnel, telles que le nom et le prénom. On ne considère pas vraiment de l'anonymat parce qu'elles montrent leur visage sur YouTube, elles laissent passer aussi des informations qui le rendent repérable. Mais Dominique Cardon, donc il va parler des espaces qui sont publiquement privés, donc les avatars peuvent représenter sur YouTube dans une logique qui sert à la fois à afficher sa différence, et son originalité, et à accroître les chances d'être notifié par d'autres. En cachant les informations personnelles pendant les entretiens, j'ai une minute. Donc j'ai l'impression qu'elles essayent de prendre moins de risques, plus spécifiquement dans leurs sphères professionnelles et familiales, et pour des raisons donc politiques qui nous amènent au point 3 que je vais faire vite. Souvent seules devant leur caméra, ces youtubeuses, elles souhaitent faire résister une image alternative d'elles-mêmes, ici, en démontrant les particularités de leurs expériences, de leur vécu personnel. Ces chaînes YouTube sont transformées donc en territoire d'une autoconstruction narrative où il est possible de verbaliser ces pratiques et ces vécus pour devenir conversation. En partageant leurs expériences, leurs opinions personnelles, elles mobilisent donc différents formats. Dans l'ensemble de leurs vidéos, on remarque qu'il a un ton pédagogique très fort, marqué par le traitement de concepts scientifiques, la disposition à expliquer et illustrer ses propos par des exemples didactiques. Donc, dans le descriptif de leurs vidéos, on a souvent des liens, des sources, et elles nous invitent toujours à aller plus loin, à chercher plus loin. Dans cette démarche donc de pédagogie et en même temps de politisation, elles essayent d'établir donc des comparaisons et de situer les événements de l'actualité dans un contexte socio-historique. Je passe. Je voulais juste peut-être aborder avant de passer à la conclusion. C'est juste que le dernier point, c'est que je trouve que c'est intéressant, c'est que c'est la question de la mémoire, en fait. C'est juste que elles ont l'impression qu'elles... je me reprends. Dans le dernier point que je voulais aborder avant de passer à la conclusion, est sur les enjeux de conservation sur YouTube, la possibilité de laisser une trace de contenu aux nouvelles générations, parce que certaines de ces youtubeuses, elles manifestent le désir d'inscrire leur production dans une logique de transmission et de mémoire. Vous avez là l'extrait d'Amandine Gay. Donc, comment elle explique, la prise de parole de femmes noires, elle n'est pas une nouveauté en France ni dans l'espace public, même s'il restait très peu référencé dans les travaux sur le féminisme. Donc, ce manque de ressources historiques est une question récurrente pour ces youtubeuses, où elles évoquent dans les entretiens. Et dans ces circonstances, il est possible de dire que YouTube s'y consolide donc en tant que dépositaire des expériences de femmes noires. Ces chaînes, elles cherchent à devenir des lieux de mémoire collective qui pourraient contribuer au registre de l'évolution historique de le sujet. Encore que le caractère éphémère de ces vidéos soit très flagrant, car ils peuvent être effacés à tout moment par les créateurs et par leur performance. Je me permets de ne pas faire la conclusion pour ne pas dépasser trop mon temps. Merci beaucoup.
Merci Jair Cio da Silva. J'aimais bien la notion de YouTube comme espace d'autoconstruction narrative, mais pas avant 18 ans. Alors on va passer aux questions. Je regarde les organisatrices par rapport au temps. On a 10 minutes, donc 3-4 questions, j'imagine.
Merci à toutes et aux jeunes hommes, aux seuls garçons de la table ronde. Vos présentations étaient vraiment très, très intéressantes. Il y aurait beaucoup à discuter, mais j'ai une question pour Jair Cio da Silva. J'ai trouvé très intéressante la réflexion sur les conditions de production en fait des afroféministes comme youtubeuses. Je voudrais vous demander si dans vos entretiens certaines ont évoqué les coûts émotionnels, coûts COUPS et coûts COU accent circonflexe TS émotionnels du fait d'être youtubeuse, d'avoir une chaîne, donc d'avoir une image publique et d'avoir une image qui vous précède avant même que vous n'ayez fait quoi que ce soit. Je pose cette question parce que moi, j'ai rencontré ce problème à ma grande stupéfaction en faisant un entretien collectif avec des blogueuses qui sont également pour certaines des youtubeuses, mais je ne vais rien dévoiler. Et du coup, je voudrais savoir comment vous... est-ce que ça a émergé? Et si oui, dans quels termes, sous quelle forme elles vous ont rapporté ça? Merci.
Pour le coup, en fait, émotionnel, dans ce cas, je parle de les personnes que je rencontrais. J'ai l'impression qu'elles ont, comment elles ont créé ces pseudonymes, ces personnages. Donc, elles m'ont raconté qu'elles arrivent à séparer donc de leur vie personnelle, professionnelle, etc. Donc, elles essayent de séparer. La question de la charge mentale pour ces youtubeuses qui a ressorti, c'est plutôt une frustration, en fait. Dans le sens, j'ai construit un sujet, je fais des recherches sur une thématique, je m'enregistre, je monte une vidéo, je publie une vidéo, je crée une chaîne YouTube, etc. Je fais tout un cheminement qui implique du temps, du travail, de l'effort, etc. Et le premier commentaire, c'est peut-être dans ta tête, etc. Donc, cette frustration de ne pas voir le débat avancer, d'être toujours amené aux mêmes questions, d'être toujours bloqué par le débat sur la race, etc. Donc il y a toujours cette frustration en fait qu'elle ressent sur YouTube, qui soit c'est le commentaire c'est très positif dans le sens merci pour tout ce que tu fais, point, il court. Soit c'est des insultes directes, donc ils vont les insulter, et peut-être qu'elles vont le bloquer, le masquer, etc. parce que c'est des insultes. Il y a très peu de débats, il y a très peu de commentaires qui vont amener une discussion, qui vont donc elles ont dit que c'est frustrant en fait de voir leur travail, leur vidéo ne pas aboutir, ne pas arriver à la fin, ne pas créer des discussions dans l'espace public, ne pas aller plus loin en fait. Donc oui, il y a certaines vidéos qui le disent, ouais. Oui. Après, le fait de s'exposer, ça implique vraiment toute une charge émotionnelle. Mais encore, ces deux chaînes, quand je les rencontrais, c'était pas encore assez connu non plus, etc. Donc, je trouve que ça joue énormément. Mais je crois que pour elles, le coup, effectivement, c'est de ne pas avoir le débat avancé. D'ici en France, c'est toujours amené à les mêmes questions de communautarisme, de racisme anti-blanc. Donc, on revient toujours à la même chose. On n'avance pas, on n'arrive pas à son sorti. Donc, c'est toujours c'est plutôt cette frustration-là.
D'accord. Ben, je remercie déjà Da Silva pour sa brillante et belle présentation. Je n'ai qu'une seule question. Quel sens affecté au discours militant et intersectionnel sur YouTube en France? Merci.
Il avait une autre question sur les comptes, sur quel sens donner. En fait, je pense que le discours sur YouTube fait qu'on le discours afroféministe, il prenne une forme beaucoup plus personnelle, beaucoup plus créative et beaucoup plus audacieuse en vrai. Parce qu'elles sont vraiment loin des institutions comme l'État, l'université, les médias, les associations, etc. Donc elles sont beaucoup plus audacieuses parce que elles peuvent en fait faire exister simultanément sur les plateformes de réseaux sociaux les différentes revendications en fait qu'elles portent. Sur les réseaux sociaux, sans que le contenu ait besoin d'une validation d'un collectif. Donc, c'est beaucoup plus libre dans ce sens, sans qu'elles aient non plus, elles être obligées de hiérarchiser les choses. Donc, sur ma chaîne YouTube, je peux parler de femmes noires, par exemple, des rapports de grossophobie, comme fait Elaouen. Je peux parler de femmes noires et mes expériences de voyage, comme fait Clémence, etc. Donc, sur ces espaces-là, elles sont pas obligées à hiérarchiser les choses. Elles peuvent parler tout d'un coup, tout au même moment, sans non plus être ramené un agenda collectif ou passé par des approbations d'un groupe, etc.
Bonjour et merci à tous les cinq de vos présentations. J'avais une question. Alors du coup, enfin, je sais pas, méthodologique, politique, appelons ça comme on veut. J'allais sur Da Silva. Tout à l'heure, vous aviez dit que, en fait, quand vous interagissiez avec, enfin, au moment des, je crois, des entretiens avec les youtubeuses, enfin, vous avez ressenti, je sais pas, des biais, je sais pas comment dire, mais des tensions par rapport au fait que vous êtes un jeune étudiant. Et vous ne vous êtes pas positionné en tant qu'homme blanc. C'est-à-dire que c'est comme si ça ne comptait pas, alors que vous êtes en train de travailler quand même sur des femmes noires, des féministes noires. Est-ce que vous êtes vraiment certain que la question du fait que vous soyez un étudiant a plus primé sur le fait que vous soyez un homme blanc, et qui, enfin, en tout cas dans votre propos, vous ne vous êtes pas positionné du coup ni épistémologiquement ni politiquement là-dessus. Donc voilà, c'est est-ce que c'est intervenu, est-ce que vous vous êtes posé la question et qu'est-ce que voilà, quelles sont vos réflexions à l'état actuel? Merci.
Et pour répondre à la dernière question et peut-être la plus intéressante, c'est que effectivement, je suis souvent et toujours renvoyé à au fait que je suis homme et blanc. On peut entrer dans un débat ici, si je me considère blanc en France ou pas, parce que je suis étranger, donc j'ai des rapports face à l'administration, etc., qui ne sont pas faciles, même si je ne suis pas là en train de dire que j'ai des rapports de race, ce n'est pas du tout ça, mais c'est juste que, en tant qu'étranger, j'ai aussi des rapports face à l'État, aux institutions. Effectivement, et du coup, il y a plusieurs choses dans ma méthodologie, dans la façon que je fais mes entretiens. J'ai pas de questions prêtes, j'ai pas d'hypothèses que je viens tester. Je viens beaucoup plus pour écouter ces personnes, pour donner la parole, pour aussi écouter, m'y déconstruire, faire ressortir mes hypothèses du terrain. Quand j'ai dit en fait que pour moi, le fait d'être étudiant et étranger m'a permis en fait d'accéder à mon terrain, parce que ça, c'est un ressenti. En fait, le fait d'être étudiant et étranger fait que, en fait, leur discours contre l'homme blanc s'est centré sur l'homme blanc français. Et du coup, comme je suis pas français, ça m'y met pas dans une neutralité parce que ça n'existe pas. Mais en même temps, ça fait que je sois pas le sujet principal de leur changement, de leur désir de changement. Et du coup, je trouve que le fait d'être étudiant étranger, ça m'a aidé à accéder à mon terrain. Ça m'a aidé à justifier à l'université pourquoi je choisis ces thématiques-là. Parce qu'il y a aussi d'autres côtés, en fait. Il faut justifier aux professeurs, aux personnes qui relisent mes articles pour les publier, etc. et qui disent que je suis militant afroféministe alors qu'il n'y a aucune logique, parce que je suis renvoyé militant tout de suite parce que je travaille sur l'intersectionnalité, etc. Donc le fait d'être étranger, ça me permet de glisser sur ces différents mondes, en fait, sur mon terrain et l'université. Mais tout simplement, pour résumer, j'ai écrit ma thèse en première personne, justement parce que je sais que je ne peux pas traiter de ces questions-là sans me positionner et sans me situer. Donc c'est très important. Ouais, je trouve que c'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais j'aimerais bien continuer la discussion après, si vous voulez.
Oui, merci à tous les intervenants. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai une question pour Anaïs Noni. Donc sur les plateformes numériques et leur usage par les féministes noires en Afrique du Sud. C'était très intéressant, bon, l'extrait que vous avez passé de Coco, alors j'ai pas retenu le nom complet, Coco Carl, alors parce qu'elle est quand même, elle est forte, elle est très foncée de peau parce qu'il y a plusieurs types en Afrique du Sud aussi, Black Clash cache une multitude aussi possible de catégories, d'ethnies, bon. Et ma question est la suivante, est-ce que vous avez déjà analysé la série web The Foxy Five? Et, ah mince, dommage, j'espérais que vous l'aviez vue pour me donner votre analyse sur cette série, qui est une web-série qui a été lancée par une étudiante de Cape Town, justement, et c'est en partie filmé sur le campus de UCT. Et qui est, je voulais faire l'opposition avec la jeune femme qui s'exprimait, donc Coco, parce que ce sont presque que des top modèles dans cette série, mais qui parlent d'intersectionnalité et de féminisme noir. Voilà, bon, tant pis. Merci.
Ouais, alors, la question du racisme en Afrique du Sud est un... hangover de l'apartheid. L'apartheid, c'était... Enfin, toutes les personnes dans la salle ici, si vous étiez en Afrique du Sud, vous auriez grandi dans une ségrégation, puisque les personnes qui ont 25 ans ou plus, à peu près, c'est ça. Donc, le campus de UCT, c'est... un campus absolument magnifique. C'est Et donc ça ne m'étonne pas que ça soit des mannequins blancs magnifiques. Ah d'accord. D'accord. J'ai pas vu le Coco 15, c'est intéressant parce que elle déjà, enfin, noir en Afrique du Sud, c'est tellement compliqué parce que plus les personnes sont en fait noires, ça veut dire aussi du Zimbabwe, du Botswana, du Mozambique. Et donc elle montre un côté. C'est pour ça que j'ai choisi une vidéo de la langue parce qu'il y a beaucoup de satire au niveau de sa position au niveau de la langue et au niveau de l'équivalent de la ségrégation linguistique, parce que aucun blanc ne parle une des 12 langues nationales de l'Afrique du Sud, et donc c'est il y a aussi ça, mais j'ai pas vu, il faut que je regarde, donc voilà.
Da Silva, alors vous avez souligné les conditions difficiles de production. Mais là, j'ai une question, mais qui s'adresse à l'ensemble des panélistes. Quelles sont les conditions d'accès? Parce que je sais qu'en dans mon pays, en Afrique du Nord en tout cas, on fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens, pas beaucoup de femmes qui ont accès. Et ce sont surtout les femmes vulnérables qui sont en milieu rural, qui sont dans des conditions difficiles, et elles ne peuvent pas avoir accès à ces réseaux sociaux pour des conditions de absence de connexion, mais également l'absence de d'éducation, etc. Voilà. Tunisie. Mais c'est pareil pour les trois pays d'Afrique du Nord, les cinq pays d'Afrique du Nord. Six pays.
En tout cas, nous, on a étudié ce compte en contexte français. Principalement parce que c'est en France qu'elle fait cela, et c'est vrai qu'on n'a pas de données sociologiques sur l'accès des portables et de Internet en Afrique du Nord, voire en Afrique subsaharienne noire de manière générale, et donc on peut pas vraiment parler. Tout ce qu'on sait, c'est que en France ou en Europe de manière générale, c'est assez démocratisé.
Oui, bon, je m'excuse je me suis pas perdue de mes pensées avant, c'est pour ça que j'ai pas répondu tout de suite. Mais je trouve que c'est une question très importante de penser à l'accès que les femmes ont dans différents endroits aux plateformes numériques. Moi, particulièrement, je viens du Brésil, et au Brésil, les plateformes sur Internet, Facebook, Instagram, c'est quelque chose qui circule beaucoup actuellement. Et notamment, on voit beaucoup. C'est un phénomène un peu pareil. Peut-être que ça a commencé un peu. Je ne sais pas si en termes de temps, mais j'ai l'impression que ça a commencé un peu avant, en termes de diffusion très large d'images des femmes noires qu'on n'avait pas avant forcément dans de médias traditionnels. Ça n'empêche que ça crée encore des boules, à mon avis. C'est mon avis en tant qu'utilisatrice et femme noire. Ça n'empêche que ça n'écrit pas de boules entre de cercles même noirs où les personnes ont des références que pas forcément arrivent à d'autres endroits où ces références soit ne circulent pas, soit ne parlent pas aux réalités de tout le monde. Après, il y a aussi la question de la représentation. Des différentes représentations des femmes noires sur les plateformes numériques. On a des comptes qui montrent des femmes noires à peau foncée et qui représentent la beauté noire féminine par rapport à cela, par rapport à un type de teint plus foncé ou moins foncé. Et ça fait qu'il y a des personnes qui sont dans un espace hybride où elles sont pas reconnues comme blanches et pas reconnues comme noires non plus. Et cette question au Brésil, elle est très complexe, vraiment. Et donc, c'est compliqué de pouvoir dire que tout le monde en retrouve de repères pour forger son identité, qui est, comme on avait dit pendant la présentation, parfois et imprononçable de personnes qui sont au milieu du chemin, qui ont une famille moitié blanche, moitié noire et qui sont métis et qui ne vont jamais arriver à trouver de repères fixes comme ça. Donc, au-delà de la question de l'ampleur de ces plateformes numériques dans un contexte où pas forcément tout le monde en a accès, il y a aussi la question des représentations qui sont faites là-dedans.
Donc sur les conditions d'accès, on continue.
Moi, du coup, c'est une très bonne question. En fait, en sciences de l'information et de la communication, on va plutôt parler des conditions de réception plutôt que d'accès. Mais effectivement, bon, premièrement, il faut une connexion Internet pour accéder à tout un tas de dispositifs techno-numériques. Mais un point qui m'a intéressée, moi, c'est plutôt donc ce que l'on peut observer de la réception des vidéos YouTube. C'est donc tout bêtement le nombre de vues. Donc, pour commencer une enquête très qualitative, on peut se dire, il y a combien de vues ? Donc, c'est intéressant. Quand c'est un média mainstream qui médiatise une parole afroféministe, on est sur Mediapart ou sur Chic Magazine, le nombre de vues est plus ou moins grosso modo la même chose que l'ensemble des autres vidéos sur les autres thèmes qui sont proposés par les médias. Lorsque ce sont, on est quand même sur des problématiques de minorité dans l'espace public et minorité dans les possibilités de conditions d'accès à une parole dans les médias. Donc lorsque ce sont des afroféministes qui s'intermédiatisent ou qui s'auto-médiatisent, on va observer une grande différence en fait dans le nombre de vues entre les différentes vidéos. Moi par exemple, quelque chose qui m'avait marqué, c'est que donc en particulier donc Mrs. Roots fait des entretiens avec ses consoeurs afroféministes. Chacune parle de thématiques ou les mêmes ou différentes avec un point de vue différent. Et la vidéo qui fait le plus de vues, c'est celle d'Amandine Gay sur le féminisme blanc, où en fait elle explique pourquoi est-ce qu'elle est passée par oser le féminisme et pourquoi est-ce que la manière dont elle pouvait pas s'inscrire en fait dans cette tradition théorique et militante. Et en fait elle fait une vidéo dans laquelle elle s'exprime auprès de Mrs. Roots, elle explique vraiment de façon très claire pourquoi est-ce que c'était pas possible. Et cette vidéo a le plus grand nombre de commentaires haineux, racistes et sexistes, et tourne plus du coup. Donc parfois, il y a des thématiques qui crispent plus, qui du coup circulent plus. Enfin voilà, ça c'est un de mes points de piste d'élaboration sur ce que j'ai observé sur YouTube. Voilà.
Si je peux juste ajouter pour la question de l'accès. En fait, il a deux façons d'interpréter la question, parce qu'il a l'accès dans le sens, pour les youtubeuses que j'ai rencontrées, j'ai l'impression qu'elles ont le sentiment de vulgariser quelque chose qui était réservé avant à une élite, etc. Donc elles ont l'impression de donner beaucoup plus d'accès à une population dans le sens de vulgariser et amener les questions afroféministes à un grand public. Après, il y a tout à fait la question de accès d'un point de vue technique, et c'est-à-dire pour regarder une vidéo, il faut avoir les équipements, il faut avoir un accès à Internet, etc. Là, effectivement, j'ai pas d'informations parce que, comme dit Emmanuel, j'ai pas fait l'étude de la réception du discours, j'ai fait l'étude de la production du discours. Mais je trouve qu'il a ces questions d'accès dans le sens où elle sort de livre, elle sort de l'écrit, il passe à l'oral. Il a une personne, par exemple, qui est même pas, peut-être, qui sait même pas lire, etc., mais qui arrive à regarder une vidéo, qui arrive à écouter, voir l'image, etc., peut être touchée, entre guillemets, par ces discours. Donc il y a ces côtés-là d'accès, en fait.